l'Atlantique, le tour du monde, c'est la règle de trois de Clarisse Kremer. Née il y a 31 ans à Paris, elle effectue sa scolarité à Saint-Cloud. Elle apprécie les sorties en forêt et les vacances à la plage en Bretagne. L'enfance ne m'a pas appris la voile, mais le plaisir du grand air, dit-elle. À l'âge de 12 ans, elle participe néanmoins aux 4 heures de Carnac, une régate sur un petit catamaran. Après un bac scientifique, Clarisse Kremer intègre HEC Paris et avec l'association Rêve d'Enfance, elle encadre des croisières pour des jeunes en rémission de cancer. Là, elle rencontre le skipper Tanguy Le Turquet. Lui habite l'Orient, Clarisse vit toujours à Paris où elle monte une agence de voyage avec son frère. Et puis, à 25 ans, j'en avais marre de prendre le métro et de ne pas voir la mer. À l'Orient, auprès de son compagnon, elle nourrit dès lors l'ambition de traverser l'Atlantique à la voile. Clarisse se prépare en vue de participer à la Mini Transat 2017. Après 2 ans d'apprentissage intensif, elle prend le départ de cette course en solitaire qui relie La Rochelle à l'île de la Martinique.
Ma principale ambition, c'est vraiment de finir parce que je reste encore un peu novice en bricolage et en gestion globale de mon bateau. Et après, j'ai l'esprit de compétition, donc forcément, si j'ai un bateau à côté de moi, j'essaye d'aller aussi vite que lui.
Non seulement elle finit, mais en plus, elle se classe deuxième. Ses performances lui permettent d'être choisie pour prendre le départ du Vendée Globe 2020-2021, le célèbre tour du monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance. Psychologiquement, c'est très dur, on est trempé, on a faim, on a froid, mais ce côté animal me passionne, dit-elle. Clarisse s'entraîne beaucoup et doit même recourir à des méthodes peu orthodoxes pendant le confinement. Le 8 novembre dernier, elle fait partie des 33 concurrents au départ.
Je suis à la limite entre joyeuse, paniquée, contente, je sais pas trop, mais je suis là où je suis, donc c'est bien.
Ces 87 derniers jours, elle est là aussi passée par toutes les émotions, apparemment joyeuse lorsqu'elle franchit l'équateur. Et au bout du rouleau, juste après le passage du Cap Horn.
J'ai eu un gros coup de mou hier où j'ai pleuré un peu sans trop de raison.
En franchissant la ligne d'arrivée mercredi dernier, Clarisse Kremer s'est classée première femme de la course, 12e au général. Et elle a battu le record féminin détenu par Ellen MacArthur depuis 20 ans.
Clarisse Kremer avec nous. Quand on entend votre patronyme, on se dit, mais il y a mère dans ce nom. C'était une prédestination totale.
Ouais.
Dans quel état êtes-vous depuis que vous êtes arrivée?
Beaucoup d'émotions différentes là qui me traversent. En fait, c'est vrai que je suis pas arrivée il y a très longtemps et j'ai pas eu vraiment le temps d'atterrir. Là, ça fait quelques fois que je dis que mon corps est là, mais mon esprit est encore resté un peu au large. Je comprends pas trop ce qui m'arrive. C'est long, 3 mois tout seul sur un bateau. On est vraiment dans une exigence de tous les jours, de tous les instants sur ces bateaux-là. Et quand ça s'arrête du jour au lendemain, on est on change de paradigme. Et je ne comprends pas tout encore.
Quand vous parlez de ces courses en solitaire, vous dites « en solitaire, je suis juste un marin ». Il n'y a pas de féminin?
Pas vraiment. C'est vrai que j'aime bien le rappeler parce que c'est un des rares sports mixtes. Et c'est vrai qu'en tant que femme, on a aussi la chance d'être mis en lumière parce qu'on est moins nombreuses que les hommes sur les plateaux de courses au large. Et en même temps, quand on est sur l'eau, voilà, on est un concurrent comme un autre. Et on ne pense pas au fait qu'on est une femme quand on est sur l'eau. Et on fait avec
Il n'y a pas de genre sur l'eau.
Il n'y a pas de genre. Et puis en fait, ce qui est chouette aussi dans la course au large, c'est qu'il y a autant de marins différents. Enfin, tout le monde a des cursus très différents parce que c'est un sport qu'on peut le pratiquer pendant longtemps. Donc il y a plein de gens différents. Et donc voilà, être une femme, c'est un élément de différenciation comme un autre. Et donc on n'y pense pas toute la journée.
Benjamin.
Vous êtes incroyable parce que vous êtes toujours souriante.
Oui.
Ah bah. Difficulté.
Et pourtant, je sais pas si ma famille.
Pour nous, c'est moi. Mais pourtant, vous devez lutter contre vos propres phobies et notamment le vertige. Et alors, est-ce que vous pouvez nous raconter ce moment où vous êtes obligé de monter à un mât impressionnant? C'est 30 mètres de hauteur. Je crois que c'est 10 étages. 10 étages. Pour aller réparer une voile alors que vous avez le vertige.
Oui, ça fait partie des moments un peu clés dans une vie de devoir surmonter ses peurs comme ça. C'est aussi ça que je viens chercher. Et c'est des moments qui apportent une grande confiance en soi après coup parce que c'est vrai que j'ai pas un vertige maladif parce que sinon j'imagine que j'arriverais pas à faire ça. Mais disons qu'on va jamais me surprendre à faire de l'escalade pour le plaisir.
Vous y êtes repris à plusieurs fois.
En fait, j'ai dû y aller 3 fois d'affilée parce que j'ai fait tomber un outil. Du coup, entre-temps, le début de ma réparation a séché. Donc, j'y suis retournée une deuxième fois. Donc, ça ne collait plus. Donc, il a fallu. Voilà, donc j'étais un peu désespérée.
Clarisse Kremer, vous avez traversé des zones mythiques, le Cap Horn, le poteau noir où les navigateurs angoissent parce que tout d'un coup, tout arrête et on est englué. Les vers de Baudelaire, la mer est ton miroir, tu contemples ton âme. Qu'est-ce que vous avez découvert sur vous lors de cette course immense et longue et seule de 87 jours? Qui vous a étonné?
Je pense que je manque encore un peu de recul, mais déjà, la première chose qui m'a le plus étonnée, c'est que je pensais souffrir de la solitude, et en fait, pas du tout.
À aucun moment vous avez...
Le soir de Noël, c'est la seule, la seule journée où vraiment je me suis dit, oh là, je me sens seule et j'aimerais bien être avec quelqu'un. Mais autrement, vraiment, je ne me suis pas sentie seule. Et ça, c'est quelque chose qui m'a surprise parce que c'est quand même 3 mois. Je ne suis pas quelqu'un de solitaire dans l'âme au quotidien.
Vous avez l'air sociable.
J'aime bien le contact et j'aime bien bavarder. Je suis assez bavarde. Mais là, vraiment, c'est ça qui m'a le plus surprise. Et voilà, parce qu'on apprend plein de choses tous les jours. Il se passe plein de choses à bord et on se découvre un peu psychologiquement. Et voilà.
On va évoquer avec Nadia et avec vous la pollution marine.
Oui, et il y a un projet qui est porté par une association qui s'appelle The Sea Cleaner. C'est par un navigateur franco-suisse qui, lui, s'appelle Yvan Bourgnon. Vous avez certainement croisé sa route. C'est donc un catamaran géant. Les images ont été révélées le 26 janvier dernier. Géant parce qu'il mesure 56 mètres de long, 26 de large, 62 de haut. Il s'appelle le Manta et il va être mis à l'eau bientôt. En 2024, il va collecter puis surtout analyser les tonnes de déchets plastiques qui sont déversés dans l'océan chaque année. C'est une démarche qui est scientifique, qui est écologique, mais qui est aussi pédagogique puisque l'équipage va faire monter à bord régulièrement des citoyens pour, et c'est ce que dit le navigateur, parce que c'est mieux pardon que de débarquer sur des plages balinaises par exemple avec un petit kit pédagogique. Cette pollution plastique, est-ce que vous l'avez vous-même observée de vos propres yeux pendant cette traversée? Est-ce que vous voyez des morceaux de plastique qui flottent autour de vous?
Ouais, malheureusement, on voit cette version-là. C'est assez frappant, c'est quelque chose... Alors moi, j'ai pas la prétention de porter vraiment une cause en particulier, mais on est forcément sensible à ça quand on est passionné par la mer et par les océans. Et donc, être au milieu de nulle part, ne voir aucun signe de civilisation, sauf les déchets.
C'est-à-dire des bidons de lessive.
Oui, voilà, c'est ça, j'ai vu des... Alors ça, c'est vraiment la... Parce que ce qui est le plus embêtant dans les océans, c'est les microplastiques, en fait, qui vont être ingérés par le plancton, et qui
restent pendant des centaines
d'années. Rebondissent dans toute la chaîne alimentaire. Enfin, donc nous, on voit la version vraiment visuelle. Moi, j'ai vu donc les deux gros trucs qui m'ont marqué, c'est le baril de pétrole en train de rouiller au milieu de l'océan Indien et le bidon de lessive dans le sud de l'Atlantique quand on n'a vu personne depuis 2 mois. Mais donc c'est assez triste quand c'est ça le seul signe de la civilisation.
Mais justement, des grandes navigatrices qui vous ont précédé, Isabelle Autissier qui s'occupe du WWF et Catherine Chabot qui a été la première femme à terminer, à boucler le Vendée Globe en 1997 et qui a créé la Fondation de la mer, je crois, se sont engagés pour l'environnement. Vous y pensez? Vous planifiez ça peut-être dans quelques années?
Oui, on pourra même rallonger la liste. Hélène MacArthur qui a complètement arrêté pour sa formation.
Donc
sa fondation sur... Oui, ça c'est plus anecdotique. Mais forcément, c'est une cause qui me touche beaucoup. Après, chaque activité a son impact. Et donc, faire de la course au large, ça a aussi son impact. Et donc, ça fait partie des choses où... Où je pense que ce qui déjà dans un premier temps essayer de travailler sur l'impact de ma passion et de ma course et puis même sur mon quotidien avant même de prétendre donner des leçons ou organiser pour les autres, déjà faire à mon échelle, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est vrai que là depuis quelques années où je me suis mis à fond dans la course au large, j'étais vraiment dans un sprint pour faire plein de choses. Peut-être que là va venir le temps aussi de faire les choses un peu plus posément, plus de façon plus organisée pour réfléchir plus à tout ça dans sa globalité.
Merci Clarisse Kremer.
Merci à vous.
La femme la plus rapide du monde sur mer était avec nous ce soir.